On pourrait lire dans le livre des Deux Chroniques, au chapitre 25. Deux Chroniques, chapitre 25. Amatsia était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Jéhoadan de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois d'un cœur parfait. Il arriva que quand la royauté fut affermie entre ses mains, il fit mourir ses serviteurs qui avaient frappé le roi son père. Mais leur fils il ne les mit pas à mort, car il fit selon ce qui est écrit dans la loi dans le livre de Moïse, où l'Éternel a commandé, disant « Les pères ne mourront pas pour les fils ». Les fils ne mourront pas pour les pères, car chacun mourra pour son péché. Et Amatsia rassembla Judas, et il les rangea selon leur maison de père, selon les chefs de milliers, selon les chefs de centaines, pour tout Judas et Benjamin. Et il fit le recensement de ceux qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite propres pour la guerre, portant la pique et le bouclier. Et il prit à sa solde d'Israël 100 000 hommes forts et vaillants pour 100 talents d'argent. On va voir un peu plus loin que c'est pour entrer en guerre avec Édom. Verset 7. Et un homme de Dieu vint à lui disant, « Ô roi, que l'armée d'Israël ne marche pas avec toi !» Car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous les fils d'Éphraïm. Que si tu vas, fais-le, fortifie-toi pour la bataille. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber. Et Amatsia dit à l'homme de Dieu, « Mais que faire quant aux 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» Et l'homme de Dieu dit, « Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. » Et Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin qu'ils s'en allassent chez eux. Et leur colère s'embrasa beaucoup contre Juda, et ils s'en retournèrent chez eux dans une ardente colère. Et Amatsia se fortifia, conduisit son peuple, s'en alla à la vallée du sel, et frappa 10 000 hommes des fils de Séir. Fils de Séir, c'est Édom. Et les fils de Juda emmenèrent captifs 10 000 hommes. Vivants, les amenèrent sur le sommet d'un rocher, les précipitèrent du sommet du rocher, ils furent tous mis en pièces. Mais ceux de la troupe qu'Amatsia avait renvoyée, afin qu'elle n'allât pas à la guerre avec lui, tombèrent sur les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Bethoron, et y frappèrent 3 000 hommes, et enlevèrent un grand butin. Et il arriva, après qu'Amatsia fut revenu de la défaite des Édomites, qu'il apporta les dieux des fils de Séir, et se les établit pour Dieu, et se prosterna devant eux, et leur brûla de l'encens. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Amatsia, et il lui envoya un prophète. Et il lui dit, « Pourquoi recherches-tu les dieux d'un peuple qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main ?» Et arriva comme il parlait au roi que celui-ci lui dit, « Est-ce qu'on t'a fait conseiller du roi ? Désiste-toi. Pourquoi te frapperait-on ? » Et le prophète se désista et dit, « Je sais que Dieu a résolu de te perdre parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Et Amatsia, roi de Juda, prit conseil et envoya vers Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, disant, « Viens, voyons-nous face à face. » « Voyons-nous face à face », c'est une déclaration de guerre, en fait. Et Joas, roi d'Israël, envoya vers Amatsia, roi de Juda, disant, « L'épine qui est au Liban, l'épine qui est au Liban a envoyé au cèdre qui est au Liban, disant, « Donne ta fille pour femme à mon fils, et une bête des champs qui est au Liban a passé et a foulé l'épine. Tu dis, voici, tu as frappé Édom, et ton cœur s'est élevé pour que tu te glorifies, maintenant reste dans ta maison, pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur? Tomberais-tu, toi et Judas, avec toi? Et Amatsia n'écouta pas, car cela venait de la part de Dieu, afin de les livrer en la main de leurs ennemis, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent face à face, ça veut dire ces deux armées qui sont l'une en face de l'autre pour se combattre. Ils se virent face à face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Et Juda fut battu devant Israël, et ils s'enfuirent chacun dans sa tente. Et Joas, roi d'Israël, prit Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joacaz, à Beth-Shemesh, et l'amena à Jérusalem. Et il a bâti la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte du coin, 400 coudées, et prit tout l'or et l'argent et tous les ustensiles qui furent trouvés dans la maison de Dieu, sous la main d'Obed-Édom, et les trésors de la main du roi et des otages, et s'en retourna à Samarie. Et Amatsia, fils de Joas, roi de Samarie, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joacaz, roi d'Israël. Le reste des actes d'Amatsia, les premiers et les derniers, voici, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Et depuis le temps où Amatsia se fut détourné de l'Éternel, on fit une conspiration contre lui à Jérusalem. Il s'enfuit à Lachis et on envoya après lui à Lachis, et là on le mit à mort. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra auprès de ses pères dans la ville de Juda. Donc, le roi Amatsia, c'était un roi de Juda, distinct donc de Israël, Israël étant le nom réservé plutôt aux 10 tribus, et également appelé Éphraïm. Alors, ce temps de la royauté de Amatsia, elle fait suite, elle est à la suite de ce temps où il y a eu le désastre du règne d'Athalie, et puis qui a été suivi par le règne de Joas. Athalie dans les chapitres 22-23, Joas chapitre 24. Joas, dans ce chapitre 24, étant ce petit enfant qui avait été mis caché par sa mère devant la méchante Athalie, et puis qui est devenu roi, qui a été fidèle la moitié de sa vie, et puis qui, à la fin dans la deuxième partie de sa vie, a écouté des conseillers humains et n'a plus écouté l'Éternel. Alors, au fond, on a à ce moment-là, après ce temps de troubles terribles qui avaient été faits, toute cette catastrophe par cette reine Athalie, qui était une idolâtre totale, sans scrupule. Est-ce que le peuple de Juda, qui était la partie restée fidèle à l'Éternel, est-ce que cette partie allait subsister, allait retrouver de la bénédiction sous la bonne main de l'Éternel? Disons que cette histoire on rappelle que cette histoire des différents rois de Juda ou d'Israël, il est surtout raconté la fidélité ou l'infidélité des rois, et le peuple généralement suivait le comportement du roi. Ultérieurement, même s'il y avait des rois fidèles comme Josias, l'état moral du peuple ne correspondait pas, et finalement il y a quand même eu la colère de l'Éternel. Mais disons que pour la période que nous lisons, c'est quand même l'attitude, le comportement du principal, du roi, qui est significatif quant au comportement du peuple. Il faut faire attention aussi dans ces questions de guerre de l'Ancien Testament. Il ne faut pas les considérer comme du point de vue des hommes du temps présent dans ce monde qui ne voient dans ces guerres que des comportements primitifs qui ne correspondraient pas à une prétendue sagesse du temps présent. Mais il faut aussi, même à l'intérieur du temps de l'Ancien Testament, avant la période de grâce introduite par le Seigneur Jésus, il faut distinguer la direction donnée initialement par l'Éternel qui était de détruire les idolâtres et qui, le temps du livre de Josué notamment et même du temps au moins des juges, tout cela c'était un temps où le peuple d'Israël devait s'emparer de son pays en détruisant tout ce qui était idolâtrie. À partir du temps de Salomon qui avait extrêmement bien commencé, a fini son règne par de l'idolâtrie, et il y a eu donc cette scission à la suite de son règne, cette scission entre d'une part Israël, ce qui est appelé Israël, les 10 tribus, Éphraïm principalement, et puis ce qui est appelé Juda, en réalité Juda Benjamin. On rappelle que le peuple d'Israël actuel correspond plutôt à Juda, aux Juifs proprement dit, qui ont été ceux qui étaient dans le pays quand le Seigneur a vécu et est mort, tandis que les 10 tribus Israël ont été dispersées avant et ne sont pas revenus dans leur terre, contrairement à ce qui était de Juda. Alors, je dis cela pour dire que on trouve maintenant, et c'est dans ces chapitres, et notamment dans le chapitre que nous avons lu, des guerres entre le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël, les 10 tribus. Ces guerres n'ont plus ce caractère de lutte contre l'idolâtrie. Alors, il y a d'une part les guerres de Juda contre Édom. Si c'était Édom, c'était l'une de ces nations environnantes d'Israël. Elle a même la particularité d'être l'objet d'un livre entier de l'Écriture qui est le livre d'Abdias, et cette nation est caractérisée par une haine sans frein contre et permanente contre Israël, et c'est une des rares nations dont il est annoncé qu'elle devait disparaître totalement, sans rémission. Donc cette guerre contre les ennemis d'Israël avait dans son principe l'approbation de Dieu. Par contre, les guerres entre Juda et le royaume des 10 tribus d'Israël étaient étaient désapprouvées de l'Éternel, dans la mesure où c'était des luttes entre ceux qui, non pas ceux qui étaient fidèles et infidèles, mais ceux qui professaient être le peuple de Dieu. Alors, tout cela pour dire que ce qui est à retenir tout spécialement dans ce chapitre, c'est le comportement du roi Amatsia, ses motivations, ses actions, et comment il a justement écouté la parole de l'Éternel, comment il en a tenu compte. Au départ de sa vie, il a bien commencé. Le nom de sa mère est rapporté au verset 1. On sait que c'est quelque chose qu'on trouve habituellement dans tous ces chapitres, et où on constate que les mères qui venaient de Jérusalem et Juda ont généralement eu des enfants qui ont suivi l'Éternel, et c'est quelque chose qui est toujours très touchant et instructif sur le rôle des mères de famille, rôle caché, parce que même dans ces récits, il n'en est pas dit grand-chose de ces mères et de ce qu'elles ont fait, mais n'empêche que, étant neveu, Jérusalem, la ville de Dieu, elles ont pris soin de leurs enfants pour les conduire dans les voies de Dieu, et leur influence dans les soins journaliers ont été déterminants. C'est quelque chose à retenir extrêmement soigneusement, et qui est toujours d'autant plus frappant que le rôle de la mère est caché, et puis que c'est finalement celui qui a un rôle déterminant, que cela puisse encourager nos sœurs. Et alors, on a donc, au verset 2, Amatsia a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. On est heureux de lire cela parce que il est, mais non pas toutefois d'un cœur parfait. Il n'est pas dit en quoi le cœur a été imparfait. Et le point important à retenir, c'est que c'est très bien de marcher selon notre Dieu, selon le Seigneur, c'est très bien, mais il est plus que désirable de le faire, non pas seulement un peu, non pas seulement en gardant de bonnes formes, mais en le faisant de cœur et d'un cœur parfait. C'est un point toujours à retenir. Alors, il est dit, verset 3, qu'il a fait mourir ceux qui avaient frappé le roi de son père. C'est un assassinat qui a été sanctionné sévèrement, et cela a été une action de justice qui mérite l'approbation. Et puis, il a pris soin de le faire correctement, sans exagérer. C'est ce que le verset 4 nous dit. D'ailleurs, frappant de voir que même dans une action de châtiment, le châtiment est fait avec mesure, et une mesure qui suit ce qui est écrit dans le livre de Moïse, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Cette expression « selon ce qui est écrit » est toujours très importante pour nous. On a parlé dans nos cantiques de la parole de Dieu, oui, mais la parole souligne spécialement ce qui est écrit. Alors, on a, à partir du verset 5, on a donc une série de guerres. La première est donc une guerre contre Édom, et simplement, sans entrer dans les détails, Édom avait un caractère d'inimitié contre le peuple de Dieu. Et s'il y a inimitié contre le peuple de Dieu, c'est aussi une inimitié contre Dieu lui-même. Alors c'est aussi à retenir, point important, est-ce que nous avons l'amour pour le peuple de Dieu, ou est-ce que nous sommes négligents vis-à-vis de cela? Alors on voit qu'il avait affermi le peuple de Dieu. Alors, bien sûr, quand il est parlé dans les versets 5 à 6, il s'agissait d'un affermissement militaire, disons que ce sont des images qui sont données. Nous avons, nous, à nous fortifier, on trouve ça dans plusieurs épîtres, notamment Éphésiens 6, se fortifier dans le Seigneur, et puis dans la puissance de sa force, et puis l'affermissement, il y a bien un affermissement de soldat. La deuxième épître à Timothée parle d'être un bon soldat de Jésus-Christ, mais c'est parce qu'il y a des bataille à faire. Alors il faut bien ne pas se tromper dans les figures de l'Ancien Testament. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, contre des hommes concrets vivants. Notre guerre est, Éphésiens 6, contre des puissances spirituelles de méchanceté, et il y a toute une armure à revêtir. Je n'approfondis pas cette question, mais Et ça fait partie, on rappelle toujours dans 2 Timothée 2, que à la fois, là où il est dit de se fortifier dans le Seigneur, il y a l'image à la fois du laboureur qui travaille avec persévérance, l'image de celui qui court dans l'arène, le sportif, l'athlète qui cherche à gagner d'un prix, et puis l'image du soldat, le bon soldat de Jésus-Christ qui cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé. On rappelle ces images qui sont toujours des images qui montrent l'effort, le soin pour gagner. Gagner pour Dieu, pour le Seigneur, gagner dans un temps où il y a des obstacles, des difficultés, des ennemis. Alors ce qu'il faut retenir, c'est ce fait qu'il s'était fortifié. Et puis voilà que donc, à partir du verset 6, on a ce problème que, bien qu'il ait réuni une armée très forte, puisqu'il y avait, verset 5, 300 000 hommes d'élite, voilà que il a tenu à prendre 100 000 de plus d'Israël, c'est-à-dire du roi des 10 tribus d'Éphraïm, et on voit qu'il y a un homme de Dieu, dont il n'est rien dit de plus, qui a marqué sa désapprobation très nette au roi, que l'armée d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël et avec tous les fils d'Éphraïm. Alors on rappelle cette question qui est plus importante qu'il n'y paraît, et qui est même un point clé de tout ce chapitre et qui est instructif pour nous. C'est le royaume d'Israël. Ils avaient, à la suite de Salomon, avaient fait sécession pour constituer un royaume à part distinct de Juda, mais pour se fortifier eux-mêmes, ils avaient décidé d'abandonner le culte au temple de l'Éternel. Ils avaient institué deux idoles, l'une au sud à Beersheba, l'autre au nord à Dan, et ils avaient dit... ils avaient donné cela comme objet du culte pour le peuple, tout en utilisant un double langage, parce que, bien que ce soit des idoles, ils avaient dit que c'était l'Éternel qui les avait fait monter du pays d'Égypte, et ils faisaient une confusion volontaire entre l'ancien culte de l'Éternel et le nouveau culte de leurs idoles, c'est-à-dire que c'était une... Il y avait un mélange volontaire pour rendre le culte des idoles un peu plus acceptable, un peu plus poli. Mais ça restait, malgré la coloration de l'Éternel mise sur ces idoles, ça restait des idoles que l'Éternel avait en horreur. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu, dans ce verset, dit ouvertement et carrément, l'Éternel n'est pas avec Israël, il n'est pas avec les fils d'Éphraïm. Éphraïm, c'était la tribu principale de ces 10 tribus. Et ce qui est à retenir, c'est qu'Amatsia avait aussi, il avait embauché, enrôlé ses 100 000 hommes, mais sans consulter l'Éternel, sans demander à l'Éternel, sans prier l'Éternel pour lui dire qu'il estimait que ses forces de 300 000 hommes étaient insuffisantes, qu'il avait besoin de renforts, qu'il avait besoin de rien du tout, sauf qu'il avait besoin d'avoir le soutien et l'appui de l'Éternel. Et c'était ça qui lui manquait. Et alors, il avait trouvé cette idée d'enrôler ses 100 000 hommes. Mais c'était une mauvaise idée, parce que il faisait partie d'un peuple qui, malgré une certaine profession extérieure de l'Éternel, je dis bien une certaine parce qu'elle n'était pas complète, au contraire, mais il se mélangeait avec eux et il introduisait parmi le peuple de Dieu et parmi les combattants et parmi des gens qui, finalement, était en inimitié avec Dieu, était contre Dieu. Et c'est un principe qui est toujours général dans la parole, que Dieu n'aime pas le mélange du bien et du mal, et d'ailleurs la première des armes de l'armure en Éphésiens 6, c'est la cuirasse de la justice, et c'était bien un aspect de l'injustice que d'aller prendre des gens qui participaient au culte de l'Éternel. Est-ce qu'il y avait une profession quand même de suivre l'Éternel ? Peut-être, mais la profession ne suffit pas, il faut qu'il y ait la fidélité pratique. Et alors, donc, l'homme de Dieu accentue, verset 8, que si tu vas, fais-le, fortifie-toi pour la bataille, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Autrement dit, tu auras, bien sûr qu'il dit fortifie-toi, mais fortifie-toi dans le Seigneur, et tu as beau vouloir te fortifier de toutes tes forces, si Dieu a décidé de te faire tomber, tu tomberas. Et alors il précise bien, on a ce principe extrêmement important, car c'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber. Ça c'est un principe extrêmement important à retenir pour toutes nos activités dans tous les domaines, c'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber. Alors, Amatia pose la question à l'homme de Dieu, mais que faire quant aux 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ? Alors, en un sens, c'est vrai que la question se posait, mais le vrai problème, il n'était pas là. Le vrai problème, il était que il avait commis une faute en enrôlant une troupe de ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu, qui restaient des ennemis. Alors, lui, il regardait pas la faute, il regardait l'argent qu'il avait donné. Et il aurait bien voulu suivre le conseil, mais en récupérant l'argent. Et alors, la réponse de l'homme de Dieu est aussi intéressante et importante. Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela. Alors, ce qui est à retenir dans cette expression, c'est le fait que quand on s'appuie sur le Seigneur, on peut commettre des fautes, mais si on s'appuie sur lui, si on a perd quelque chose, comme lui, il avait perdu ses 100 talents, ben c'était perdu. Mais Dieu peut redonner. Dieu sait rendre. Il sait rémunérer, rétribuer d'une manière que l'homme ne fait jamais aussi bien. Et ça fait partie de la confiance en Dieu de savoir comment il peut à la fois nous garder, nous préserver, mais même nous épargner des conséquences trop fâcheuses de nos fautes. Alors, Amatia, finalement, verset 10, il écoute, il renvoie chez eux la troupe d'Israël, la troupe qui est venue d'Éphraïm, il les renvoie, mais voilà que ceux-là sont furieux d'avoir été enrôlés et puis d'avoir été renvoyés chez eux, c'était vexant. Mais ils se vexaient, je dirais, de façon normale, comme les hommes du monde se vexent normalement, quand on compte sur eux, puis tout d'un coup on dit, on veut plus de vous, débrouillez-vous. Et alors, apparemment, les choses continuent comme si, finalement, la faute avait été gommée. Amatia se fortifie au verset 11, il va en guerre, il gagne la guerre, verset 11 et 12 nous dit cela, et c'est même une grande victoire. Et puis, voilà que ceux qui ont été renvoyés d'Israël sont tellement furieux qu'ils se retournent contre les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Bethoron, puis ils ont même frappé 3000 hommes. Alors on dira, mais pourquoi il y a eu ça, il avait... Mais on voit la justesse de ce qu'a dit l'homme de Dieu. C'était que ce qui était dans le cœur de cette troupe d'Israël, d'Éphraïm, c'était pas du tout la gloire de l'Éternel, c'était pas du tout le bien du peuple de Dieu et de Juda. Étant vexés, ils se retournent contre le peuple de Dieu, ils en frappent 3000 hommes, donc ils enlèvent un grand butin, c'est une grosse perte en hommes, perte en butin, mais on voit que ça manifeste un cœur spécialement méchant, et ça ne fait que renforcer la pertinence du conseil de l'homme de Dieu. Mais c'est pas seulement que l'homme de Dieu avait donné un bon conseil, parce que je répète que c'est un principe général que l'association pour l'œuvre du Seigneur avec ce qui n'est pas les combattants de Dieu, bien, ça ne peut que produire du mal et du désordre. C'est ce qu'a dit le prophète. Et c'est constaté concrètement par le comportement de cette troupe une fois qu'elle a été renvoyée. Et puis, on voit que Amatsia, il a donc eu tort dans toute cette affaire de l'enrôlement de la troupe d'Israël, mais on voit que cette affaire de son cœur qui n'était pas parfait s'est traduit aussi par autre chose qui, en un sens, c'était économiquement c'était moins grave, mais moralement c'était beaucoup plus grave. C'est à partir du verset 14, c'est-à-dire que il a pris des dieux des fils de Séir, c'est-à-dire des dieux d'Édom, et il les a pris comme dieux avec un petit dé pour faire de l'idolâtrie avec ceux-là, leur brûler de l'encens. La colère de Dieu s'embrase contre lui au verset 15 parce que c'est de l'idolâtrie. Et puis, le prophète, il y a un prophète qui parle, on ne sait pas si c'est le même que l'homme de Dieu précédent, mais ce prophète souligne la bêtise de cette idolâtrie. Dans cette idolâtrie, il y a un côté de méchanceté contre l'Éternel, de péché, d'idolâtrie, mais il y a un côté aussi d'aveuglement, de bêtise. Pourquoi cherches-tu les dieux d'un peuple et d'hommes qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main? Tu es vainqueur et tu vas prendre les dieux du peuple idolâtre. Alors ça, c'est quelque chose à bien retenir. Alors on voit en parenthèse que Édom dans cette affaire était aussi un peuple idolâtre, et ça explique pourquoi la guerre que menait Amatsia avait l'approbation de l'Éternel par le fait que c'était une guerre contre un peuple idolâtre. Mais on voit aussi cette question frappante et étonnante de l'aveuglement. On se mélange avec le monde, on veut collaborer avec le monde, et finalement le résultat c'est que des habitudes du monde s'introduisent parmi le peuple de Dieu, et que finalement ça détourne. Ça amène loin de Dieu. Alors ça, c'est aussi un principe bien, disons, un danger qu'il faut bien connaître. C'est-à-dire que croire qu'on se fortifie, qu'on augmente ses forces en se mêlant avec les moyens du monde, ben c'est tout le contraire qui arrive, c'est la corruption du monde qui s'introduit parmi le peuple de Dieu. Et ça, il faut bien le retenir. Le prophète, donc, parle. Il lui est dit, le roi lui dit, est-ce qu'on t'a fait conseiller du roi? C'est une façon française vulgaire, on dirait, mêle-toi de tes affaires et viens pas te mêler des miennes. Mais le prophète insiste pas et il dit cette phrase, je sais que Dieu a résolu de te perdre. On voit qu'il y avait cette idolâtrie, il y avait eu une faute en enrôlant ceux d'Israël, mais la faute principale, la faute pire, était cette introduction des idoles. Et ça, à ce moment-là, Dieu endurcit le cœur et sa perte est décidée. Alors, dans les versets 17 à 24, on a une deuxième guerre. C'est Amatsia envoie vers Joas, fils de Joacas, donc le roi d'Israël. Alors ce coup-là, Amatsia ne s'occupe plus de la troupe de 100 000 hommes, mais il s'occupe de le roi des 10 tribus d'Israël, d'Éphraïm. Et il veut faire la guerre avec eux. Et c'est une guerre qui n'a aucune justification, une guerre qui n'est pas contre l'idolâtrie, puisque lui-même il avait fait de l'idolâtrie. Une guerre qui n'est pas demandée par l'Éternel, une guerre qui est contre ceux qui autrefois étaient le peuple de Dieu, une guerre qui vraiment n'a aucune justification, sinon que Amatsia s'était enorgueilli, ayant gagné une première guerre contre Édom, il voulait montrer sa force contre le roi d'Israël, des 10 tribus. Cette prétention d'orgueil était d'autant plus déplacée qu'il la faisait au moment où lui avait péché. Alors, quand il y a des prétentions à faire des choses extraordinaires quand on est soi-même dans l'erreur ou dans le péché, alors là, on est sûr de tomber. Et c'est ce qui arrive. Et dans ce cas-là, c'est même le roi de c'est le roi d'Israël des 10 tribus, verset 18, qui, sous une forme parabolique de parabole, lui dit, mais tu as frappé, verset 19, tu as frappé Édom, ton cœur s'est élevé pour que tu te glorifies. C'était vrai. Et c'était triste de voir que c'est quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu, qui est même un ennemi de Dieu, c'est lui qui fait la, une leçon, et une leçon juste. Et en plus de ça, donc, Amatia n'écoute pas. Alors, on voit, c'est un aveuglement qui augmente. Alors, il y a aveuglement quant au discernement, endurcissement quant au cœur, et c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, et nous sommes dans un temps où le monde prend de plus en plus de puissance, d'importance, non seulement dans les affaires du monde politique, dans les affaires religieuses et tout, et les questions d'aveuglement et d'endurcissement se développent partout. Et c'est un danger qui guette chacun, qui nous guette chacun, et alors qui guette encore plus quand on s'enorgueillit puis qu'on a fait sa propre volonté, mais qui guette dans tous les cas. Et nous sommes dans les ténèbres, la seule lumière, c'est le Seigneur qui est la lumière, Jean 8, et c'est de lui seul et de la parole que viennent la lumière, et autrement on s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, mais qui dit les ténèbres dit l'aveuglement, parce que dans les ténèbres on voit rien du tout. Et puis le cœur s'endurcit. Alors, disons que je donne là simplement le principe général, mais le détail, c'est ce qu'on a concrètement devant nous. Le résultat, c'est que non seulement c'est catastrophique, verset 21, quand il est dit se virent face à face, c'est les armées qui sont l'une contre l'autre, on voit que Juda est battu, verset 22, on voit que le verset 23, Amatia est fait prisonnier, la muraille de Jérusalem est détruite, l'argent de la maison de Dieu est pris. On voit que c'est un déshonneur, alors déshonneur complet pour l'Éternel, ruine de tout ce qui fait la force du peuple de Dieu, ce qui le protège de l'ennemi, la muraille est rompue, les protections de l'ennemi sont rompues, tous les ustensiles, tout ce qui est dans la maison d'Obed-Edom, c'était celui qui gardait les trésors de la maison du roi, tout ce qui est précieux, et pour nous c'est tous les privilèges chrétiens, voilà que tout est perdu. Mais retenons que ce qui est frappant dans ce chapitre, c'est aussi le caractère progressif. Un cœur qui n'est pas parfait, ensuite un mélange avec les ennemis de Dieu, ensuite on n'écoute pas les conseils, la parole de Dieu, ensuite on est aveuglé, on s'endurcit, et ensuite c'est la ruine sur tous les plans. Après, bien sûr, verset 25, il a vécu encore 15 ans, mais quelle tristesse pendant ces 15 ans, il n'y a plus de force, plus de trésors, plus de gloire et d'honneur pour l'Éternel. Il n'y a rien que du désastre, de la ruine, des sujets de tristesse. Et ça, c'est bien souligné que, verset 27, que depuis le temps où Amatia se fut détourné de l'Éternel, on fit une conspiration. On dirait, mais la conspiration, c'est des organisations des hommes, ça n'a rien à voir avec la faute de Amatia. Et c'est le contraire. Quand on se détourne de l'Éternel, eh bien, on ne peut plus, les attaques de l'ennemi ne font que se renforcer. Bien que ce soit pour une fin d'année, pour une année nouvelle, ou que ce soit pour toute la durée de notre vie, que nous soyons ainsi soigneux pour retenir les leçons de la parole de Dieu, suivre le Seigneur d'un cœur parfait, écouter ce qu'il dit, éviter, fuir tout ce qui est mélange, et encore plus fuir ce qui s'associe à des pratiques idolâtres, et se garder de toute prétention d'orgueil, marcher humblement avec son Dieu, comme il est dit ailleurs.